Il y a quelques-uns de vos visages qui me sont familiers, puisque depuis une semaine, je vis au rythme de votre paroisse, ce qu'on appelle une visite pastorale, que j'accomplis avec deux autres personnes qui sont des laïcs, qui proviennent d'autres paroisses. Et à tous les trois, on vient jeter un regard sur ce que vous vivez, ce que les groupes vivent, ce que les impulsions que vous vivez sous la houlette de votre curé et du conseil pastoral. Et donc, je ne vais pas vous rétrocéder, je ne vais pas faire un retour sur ce que j'ai vécu, puisqu'on le dira plus tard au conseil pastoral, mais je voudrais saisir l'opportunité de cette page d'évangile pour, moi, vous dire le regard, pas simplement que moi, mais que le Seigneur veut et pose sur vous individuellement et sur vous ecclésialement. Parce que aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai choisi, on entend la deuxième partie du texte des Béatitudes dans l'Évangile. La première partie, c'était dimanche dernier, et on avait entendu ces neuf paroles qui commencent toutes par « bienheureux » et qui ont l'air de décrire des situations de malheur, la persécution, pour la justice, etc. Être un artisan de paix dans ce monde de violence. Donc les paradoxes de ce bonheur que Jésus promet, et ces neuf béatitudes, pour les comprendre ad minima, a minima, c'est-à-dire un tout petit peu au moins, il faut passer par le moment où nous nous disons que ces neuf béatitudes, c'est le portrait de Jésus et non pas notre portrait. Jésus est la seule personne au monde qui a vécu les neuf béatitudes. Et donc, si vous êtes sensible à une béatitude, avant de vous dire comment moi je pourrais la mettre en œuvre, demandez-vous comment Jésus l'a mise en œuvre en regardant les évangiles. Parce que Jésus, c'est plus que notre modèle. C'est Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Rien que ça. Et donc, d'entendre ces neuf béatitudes doivent d'abord nous mettre dans une situation de contemplation de la personne de Jésus, avant de se demander comment je peux être un artisan de paix dans le travail difficile que je fais. Oui, en second, mais en premier, comment Jésus a vécu la violence, comment Jésus a vécu l'adversité. Et c'est simplement comme ça, par impression, comme quand on imprime quelque chose, c'est par impression qu'on deviendra Jésus, qu'on deviendra plus près de Jésus, et non pas simplement par sa petite volonté. Et aujourd'hui, on n'entend plus le portrait de Jésus, dans cette page d'Évangile, on entend le portrait du disciple, c'est-à-dire vous et moi. Et Jésus ne dit pas à ses disciples, « Bon, maintenant que je vous ai donné les béatitudes, vous allez essayer d'être la lumière du monde, ou je vous promets que vous serez la lumière du monde et le sel de la terre. » Il est affirmatif. Vous êtes. C'est pas « si vous êtes », c'est « vous êtes ». Qu'on le veuille ou non, un baptisé, disciple, missionnaire, est la lumière du monde et le sel de la terre. Alors comment ne pas prendre ça pour de l'orgueil ou de la myopie sur notre péché et notre humanité? Eh bien, il me semble que pour cela, il faut d'abord comprendre que on ne peut entendre cette deuxième partie, la lumière et celle, que si on entend la première partie. Et qu'on se dit que c'est pas simplement que Jésus me dit que je suis super. c'est que si je pratique les béatitudes, je suis, ou plutôt parce que je pratique les béatitudes, parce que je veux pratiquer les béatitudes, parce que j'essaye de communier à Jésus, l'homme des béatitudes, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Et là, ça demande beaucoup plus d'humilité que d'orgueil. Parce que c'est un travail que le Seigneur fait en nous pour nous sanctifier, qui va engendrer un comportement qui va donner du goût, comme le sel donne du goût, ou qui va donner une beauté comme la lumière donne la beauté. Mais c'est pas moi, c'est le Seigneur en moi, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » et qui n'a pas dit, mais qui aurait pu le dire, « Je suis le sel de la terre ». C'est lui. Alors comment avoir ce regard et quel lien je fais avec la visite pastorale que je viens de faire ? Pour avoir ce regard avec vérité, il faudrait que vous imaginiez ces petites poupées russes qu'on appelle des machiorka, je ne sais plus comment, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, merci. Et qui se mettent les unes dans les autres. Alors, vous en imaginez trois. La première matrushka, la première poupée, c'est ce que les autres voient de moi. Mon premier degré, mon premier regard. Et la manière dont les autres nous voient, il est hyper important parce qu'il conditionne beaucoup de choses dans ma vie intérieure. Et donc, si je ne me sens pas aimé, je ne vais pas fréquenter ces gens-là. Si je me sens apprécié, je vais les voir. Mais je sais très bien que si je me contente du regard que les autres posent sur moi, je vais rapidement me leurrer sur moi-même. Parce qu'il y a ceux qui sont optimistes et ceux qui sont pessimistes, et il y a ceux qui sont... c'est difficile d'être dans l'objectivité par rapport à ce regard. Le deuxième petit poupée russe, c'est ce que moi je pense de moi. C'est déjà plus intérieur. C'est-à-dire, les autres ils me voient comme ça, mais en fait ils ne savent pas que je suis comme ça. Ils ne savent pas que ceci, ils ne savent pas que cela. Et ça c'est dépressif ou c'est excessif dans l'autre sens. Parce que ça dépend de nos sentiments, des événements. Et malheureusement, c'est l'addition de ces deux regards qui peuvent formater mon estime de moi. Et bien ça, c'est largement insuffisant pour être heureux. En tout cas, c'est ce que dit Jésus. C'est pour ça que Jésus va introduire un troisième regard, la troisième petite poupée russe, qui est le regard que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, son Fils, qui est sa bouche, son Verbe, la manière dont Dieu le Père nous voit. Il nous voit à partir de nos fragilités, de nos désirs de sainteté, il nous voit à partir de nos faiblesses, et il nous dit, je sais bien qui tu es, Marie-Madeleine, je sais bien qui tu es, Pierre, tu vas me trahir dans 2 ans, Marie-Madeleine, je connais bien ton passé. Et pourtant, je te regarde dans les yeux et je dis, tu es un cœur pur. Bienheureux les artisans de paix, bienheureux les miséricordieux. Parce que je voudrais Marie-Madeleine, je voudrais Zachée, je voudrais Pierre, Judas, je voudrais que tu saches qu'à mes yeux, tu es un saint. Tu es un bienheureux. Il y a en toi un saint qui dort depuis le jour de ton baptême. Éclos-le. Accepte ce regard que moi je pose sur toi. Et alors là, si tu as ce regard-là, tu es lumière et tu es sel. Non pas parce que tu es meilleur, mais justement parce que tu acceptes ce tiers regard qui nous dit notre vérité tant du côté des ténèbres que du côté de la lumière. Et Jésus va donc utiliser ces deux métaphores du sel et de la lumière pour nous parler. Le sel, c'est quelque chose qu'on voit à peine, mais s'il n'y en a pas, on le sait très vite. La lumière, c'est quelque chose qu'on voit, dont on a tous besoin, mais s'il y en a trop, on ne peut pas regarder en face la lumière. Et donc tout est une affaire de dose, et tout est une affaire de oser. Oser être le sel, oser être lumière. Doser le sel, doser la lumière dans nos vies. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est cumulatif. En même temps, comme dirait notre président, en même temps, on est sel et on est lumière. C'est-à-dire qu'en même temps, on doit être humble et en même temps, on sait qu'on doit être éclairant. En même temps, ces deux réalités que sont le sel et la lumière, s'ils existent, si elles existent par elles-mêmes, elles n'existent pas pour elles-mêmes. Parce que le sel, il est pour les aliments, et la lumière, elle est pour le monde. Et un chrétien, un disciple, une paroisse, n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour les autres. Et donc ces petites choses que vous faites ici, les cellules d'évangélisation, le verre saint, je pense qu'il y en a qui ne savent même pas encore ce que c'est, parce que moi je l'ai appris hier simplement, ces adorations, ces 60 adorateurs que vous êtes, je suis pas sûr que ça sèche dans le quartier, mais peu importe, c'est comme ça que vous construisez votre lumière et votre sel, c'est comme ça que le Seigneur veut agir. Et donc, ce sel et la terre, ce sel de la terre et cette lumière du monde, le disciple n'existe pas pour lui-même ni par lui-même, il existe pour le monde et il existe par Jésus-Christ, lumière du monde, sel de la terre. Et donc, de la même manière, si vous voulez, que Israël est la lumière des nations et non pas la lumière de la lumière, de la même manière que l'Église est lumen gentium, la lumière des peuples, comme on dit dans le Concile Vatican II. On existe parce qu'on a une vie intérieure qui nous missionne pour une vie extérieure, et non pas le contraire. Eh bien, demandons au Seigneur, à travers cette méditation sur le sel et la terre, de savoir, un petit peu comme la Vierge Marie, qui elle savait très bien doser le sel et la lumière, son humilité et son impact 2000 ans après. Demandons non pas d'être Sainte Marie, parce que nous sommes simplement des saints de la terre et les pécheurs, mais demandons de pouvoir avancer sur l'amour de Jésus, la contemplation du Seigneur, la greffe, laissons prendre la greffe de notre humanité sur la personne de Jésus, pour qu'il fasse, lui, ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, être sel et lumière. Amen.